Que chacune et chacun d'entre vous se sente ici comme chez lui, dans cette maison où nous sommes venus pour rendre un culte à Dieu, pour nous ouvrir à sa présence, pour rechercher ce qu'il veut nous offrir aujourd'hui. Mais avant toute chose, voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Nous pouvons vraiment compter sur la fidélité de Dieu. Il nous donne la grâce et la paix, à chacun comme si nous étions son unique enfant. Alors nous nous présentons devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français dans le petit livret liturgique. Réjouissons-nous au Seigneur.
C'est Diane qui nous conduit dans la louange.
Louez le Seigneur. Dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui. Célébrez-le par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèle du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur et sa puissance. Cherchez continuellement sa présence. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous, les fils de Jacob qu'il a choisis, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites, rappelez-vous ses prodiges, les décisions qu'il a prononcées.
Et nous poursuivons cette louange par le chant du psaume 36. Dans notre psautier français, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons place pour entendre une expression de la volonté de Dieu pour nous, et c'est Ulysse qui l'a fait retentir à partir de l'Évangile selon Matthieu.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre ensuite sous un seau, mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
C'est maintenant Sacha qui nous permet de nous recueillir dans la prière.
Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Toi qui es si bon, Seigneur. Amen.
Et c'est Balthazar qui nous fait entendre une réponse à cette prière à partir du psaume 25.
Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu, tu pardonnes mes torts qui sont nombreux.
Le livre des psaumes nous donne également les mots pour exprimer notre confiance en Dieu, et c'est Clémence qui nous fait entendre ces mots-là.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Et les enfants, et vous tous, pourquoi êtes-vous venus aujourd'hui? Il y a quantité de jolies choses à faire le dimanche matin. Alors pourquoi est-ce que nous nous sommes déplacés ici? Dans le texte de l'Évangile que je vais vous lire, l'apôtre Pierre se pose lui aussi la question. Pourquoi est-ce que je me suis déplacé pour écouter ce que raconte Jésus? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'arrête? Et il en discute avec ses amis et Jésus, effectivement, avait dit des choses un peu dures à entendre. Il a dit « Mangez ma chair, buvez mon sang ». Alors ils ne comprennent rien, ils se demandent si Jésus n'est pas en train d'inventer une histoire de vampire et de loup-garou. L'apôtre Pierre hésite, il reconnaît devant Jésus qu'il s'est demandé s'il n'allait pas rentrer chez lui et puis bien tranquillement, comme ça, continuer la sieste. Mais finalement, Pierre est là, avec Jésus, et il nous dit pourquoi. Il nous dit que finalement, il n'a pas trouvé mieux. Alors bravo à vous les enfants d'être là ce matin, bravo aux parents, qui n'y sont peut-être pas pour rien non plus, puis bravo à vous tous, à nous tous, d'être là pour, écouter. Peut-être une parole dure, peut-être une parole qui, quelque chose dont on ne peut pas trouver mieux. Alors c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, que nous suivons avec les enfants actuellement, à partir du verset 56, que je vais vous lire quelques mots. Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. » C'est ce que Jésus dit quand il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, vraiment qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui rend vivant. La chair ne sert à rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Et dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent chez eux et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, où irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour nous mettre à laisser résonner un peu ces textes, ces témoignages de l'Écriture en nous-mêmes, de prendre le temps de la louange avec le psaume 91 dans le psautier français, les trois premières strophes, qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce, avec cette proposition d'être auprès du Seigneur. Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable bonheur de vivre et pour nous aider à être bénédiction pour les autres. Jésus est triste et déçu, car plein de ses disciples s'en vont. Il demande à ses proches, à ses plus proches, « Vous aussi, vous allez partir ?» Et on sent un pincement au cœur, un sentiment d'échec finalement, d'abandon, mais aussi une détermination. On a l'impression qu'il dit « Ben voilà, je parle comme j'ai l'impression que je dois parler, et c'est comme ça, comment faire ?» Il est clair que Jésus ne cherche pas à plaire. Avec son intelligence, avec son charisme, il n'aurait pas eu de mal à gagner des élections. Mais seulement, Jésus ne cherche pas à plaire, mais à faire vivre. Et pour cela, il doit parler en disant la vérité. Pour ça, il doit chercher à éveiller le meilleur de chacun des personnes qu'il rencontre et non flatter simplement leur penchant naturel. Pour cela, il doit les réveiller, pas les endormir. Il ne cherche pas à les distraire, au contraire, il essaye de les faire se sentir concernés. Jésus ne cherche pas à les captiver, mais au contraire à les rendre libres, à les rendre géniaux, créatifs. Alors oui, ça en fatigue plus d'un. Cette parole est dure. Et Jésus dit donc aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Eh bien, il en reste quand même quelques-uns pour lui faire confiance, dont Pierre, qui explique franchement, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et donc ces mots laissent supposer que l'idée de partir lui est bienvenue, en fait, comme aux autres. Il ne dit pas à Jésus, « C'est hors de question, je n'ai pas pensé une seconde à te quitter. » Mais Pierre, il donne en fait une raison négative de rester là, à suivre Jésus et de ne pas l'abandonner. C'est qu'il n'a pas trouvé mieux, en fait. C'est pas qu'il n'ait pas cherché. Il s'est posé la question, ben non, il n'a pas trouvé mieux. Et en réalité, il y a déjà quelque chose qui n'est pas si négatif que ça dans la réponse de Pierre. Il a au moins compris qu'on ne peut pas vivre sans avoir foi en quelque chose. Il faut un idéal, quelque chose à poursuivre, il faut un but, c'est vital en fait. Alors on a le droit de ne pas être chrétien, de ne pas suivre Jésus. Mais encore faut-il au moins croire en quelque chose. Parce que croire en rien, c'est comme être une feuille morte qui est emportée par le vent. C'est juste nul de répondre « bof, je vais juste laisser vivre comme ça », « bof à tout idéal », n'avoir aucun élan supérieur, aucun souffle en fait. Et donc le pire, ce serait de refuser le Christ dans la vie, mais de le replacer par rien du tout en fait. Alors si quelqu'un ne s'intéresse pas à Jésus-Christ, eh bien qu'il choisisse Bouddha. S'il n'aime pas Bouddha, qu'il s'intéresse à Mohamed, à Platon, à Marx. On peut même faire un savant mélange de plusieurs inspirations, si on veut, mais au moins, croire en quelque chose. En quelque chose et y croire vraiment, c'est-à-dire croire activement, pas comme un touriste. Pas comme ces gens qui disent « oui, je suis croyant, je crois qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas pratiquant ». Ça, c'est nul, en fait. Car quelle que soit sa croyance, ce n'est pas une façon de vivre sa vie que de rester ainsi. C'est donc pas par hasard, finalement, que Pierre s'intéresse à Jésus. Il a cherché différentes solutions, il s'est intéressé, il a rencontré, il a foncé, c'est son genre, pour suivre Jésus, puis après il a réfléchi, il a discuté avec les autres, et il n'a pas trouvé mieux que Jésus. Il le garde. Et je trouve qu'effectivement, à franchement parler, je trouve que l'Évangile, c'est pas si mal que ça. Moi, j'ai pas trouvé mieux non plus. Mais en tout cas, il est donc utile de savoir que nous avons le choix, en fait. Et il est utile de savoir comment choisir. Et comme Pierre, nous voulons avancer, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Et comme lui, nous cherchons, c'est bien, nous tâtonnons. Et pour cela, nous devons être capables de faire le point un peu comme il fait ce matin-là, finalement. En discutant ensemble avec les autres. Et je crois que c'est une bonne idée de faire comme ils le font, de discuter avec quelques autres, même si en définitive, c'est chacun qui doit décider pour soi-même, car c'est une décision très personnelle, complètement intime, de savoir en quoi nous croyons. Alors ça permet de discuter, de réfléchir, d'évaluer finalement, et puis éventuellement corriger un peu le tir. Jésus les encourage d'ailleurs à le faire, à faire le point par eux-mêmes. Quand Jésus dit aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller, retourner chez vous ?» Jésus est triste de voir les gens l'abandonner, bien sûr, mais il ne les critique pas. Si ce que Jésus leur propose ne les fait pas vivre, eh bien, ils font bien de changer d'avis et puis d'abandonner maintenant, parce que la vie est courte, alors il faut mieux qu'ils trouvent quelque chose qui les fait vivre. C'est le but de Jésus, de toute façon, donc il ne va pas les garder de force. Alors comment est-ce que Pierre évalue le fait d'avoir choisi Jésus et savoir s'il veut continuer? Dans un sens, Pierre et ses amis trouvent qu'effectivement les paroles de Jésus sont dures à avaler. Et cela leur donne envie de quitter Jésus et de retourner chez eux. Mais d'un autre côté, Pierre regarde en lui-même et il reconnaît que les paroles de Jésus ont été pour lui une source de vie tout à fait exceptionnelle. Que ça lui a permis d'avancer, qu'il y a quelque chose de plus vivant en lui grâce à ses paroles. Et donc finalement, même si ça ne l'amuse pas tellement, finalement, Pierre va continuer à suivre Jésus. Mais je crois que c'est une bonne idée de faire le point. Alors, pour la religion, pour la foi, pour ce en quoi nous croyons, pour les amis que nous choisissons d'avoir, pour les lectures, les films que nous regardons, je ne sais pas. C'est une bonne façon pour faire le point de se demander, est-ce que ma façon de vivre, ma façon d'espérer, est-ce que ça me rend plus vivant? C'est la vraie question, je crois. Ne pas s'arrêter à l'écorce des choses, mais examiner si telle activité, telle croyance, telle pratique, telle passion, tel culte, me rend meilleur? Est-ce que ça me rend pacifié? Ça me rend plus maître de ce que je pense, de ce que je décide, capacité à avoir peut-être un cœur plus capable de comprendre les autres? Est-ce que ça me rend meilleur ou non? Peut-être que ce qui convient à l'un ne conviendra pas à l'autre. Peut-être que c'était aussi une question de quantité, de dosage. Il n'y a pas marqué dans la Bible qu'il faut venir absolument tous les dimanches au culte, ou prier 5 fois par jour, ou lire la Bible telle quantité, tant, de telle façon, avec telle personne. Non. Il faut donc, comme le fait Pierre, creuser un peu la question. Et pour cela, il convient déjà de se connaître un peu soi-même, sinon comment savoir si on progresse, si on est plus vivant? Il convient d'ouvrir les yeux et donc oser se regarder dans la glace, en fait. Enfin, pas seulement l'extérieur, mais plutôt regarder l'intérieur de nous-mêmes et examiner notre dynamique interne. Est-ce qu'on est plutôt dans une pente croissante? Est-ce qu'on est plutôt dans un approfondissement? Ou est-ce qu'on stagne, finalement? Se dire que nous sommes grands et que nous pouvons évoluer, que nous pouvons choisir, que nous pouvons décider, que nous pouvons changer, oui, progresser, devenir meilleurs. L'évangile du Christ, c'est que nous en sommes dignes et que nous en sommes capables, que Dieu s'y engage, il est pour nous, il est avec nous, il est là pour ça, en Christ. En tout cas, ce que Jésus nous apporte d'important, ce sont ses paroles. Ils sont tous d'accord là-dessus. Certains les trouvent trop dures et les abandonnent, d'autres, comme Pierre, disent « ben non, ces paroles, ça nous a rendus extraordinairement vivants, d'une qualité de vie exceptionnelle, mais en tout cas, c'est les paroles de Jésus qui sont là importantes, c'est là le fond de la question, à saisir. » Alors, nous sommes devant ces paroles, certains les trouvent trop dures et inutilisables, d'autres absolument géniales, ça transforme leur vie. C'est comme pour toute chose, comme avec toute machine puissante, comme avec tout médicament important, efficace, il faut en connaître le mode d'emploi pour qu'il fasse vivre, et la posologie un peu, adaptée à notre situation. Par exemple, pour un micro-ondes, c'est accompagné d'un mode d'emploi, et au début, quand ça a été inventé, ce truc, je me souviens, c'était il y a 40 ans au moins. Au début, les gens ne savaient pas trop comment ça marchait, en fait. Et ils ont dû ajouter dans le mode d'emploi quelque chose de très utile. Le micro-ondes sert à réchauffer les aliments, ça ne sert pas à sécher le chat quand il sort du bain, ni à réchauffer son bébé. Ça paraît complètement évident. Eh bien, c'est pareil, finalement, avec les paroles de Jésus. Il ne faut pas se tromper de mode d'emploi, et il les donne aujourd'hui, donc, dans ce texte. Il dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et déjà, ça éclaire un peu. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas forcément si clair pour nous. Et puis, ça n'était peut-être pas tellement que ça pour les autres aussi, puisqu'ils l'abandonnent quand même. Mais c'est qu'il y a parole et parole, en fait. Toutes n'ont pas le même statut, ni le même mode d'emploi, en fait. Et pour ceux qui sont en train d'écouter Jésus, il y a une ambiguïté. Certains pensent que Jésus est comme un professeur et que ses paroles sont comme une loi, qu'il faut nécessairement être d'accord et donc qu'il faut croire, obéir. L'expérience de Pierre, c'est que les paroles de Jésus, c'est plutôt une puissance de vie, une puissance de transformation. Mais pour ça, il faut les prendre autrement, ces paroles. Et c'est ce que Jésus explique ici. Mais peut-être que le mode d'emploi, effectivement, n'est pas hyper clair. C'est un peu comme ces modes d'emploi qu'on débat, les pans, c'est tout marqué en chinois, en thaïlandais, mais ils ont oublié le français. Donc il faut un peu décrypter, si vous voulez. En fait, Jésus, il nous dit que cette parole, c'est comme sa chair qu'il faut manger. Alors, quand on regarde le texte, c'est un peu compliqué, en fait. Il dit qu'il faut manger sa chair, que c'est l'essentiel, que ça donne la vie. Ensuite, il dit que la chair ne sert à rien, que c'est l'esprit qui donne la vie. Puis ensuite, il dit que ses paroles sont esprit et vie. Alors, quand on décrypte un peu, qu'on réfléchit, qu'on pose un peu tout ça, ça nous donne une piste, en fait. Chacun de nous, et Jésus aussi, est à la fois chair et esprit. La chair, c'est notre existence en ce monde, c'est un peu le cadre, ce qui a été créé, c'est des protéines, c'est de la matière, c'est une organisation. Et l'esprit, le mot esprit, c'est le terme qui est utilisé dans la Bible pour parler de la présence de Dieu, donc auprès de ce monde, auprès de cette matière, quand il crée, quand il donne la vie, quand il donne une organisation, un souffle, quand il aime, quand il donne vie, quand il donne du sens. Et donc la chair et l'esprit sont bons tous les deux. On ne pourrait pas réfléchir si nous n'avions pas la chair. Et donc Jésus ne méprise pas la vie en ce monde, ni le corps vivant dans lequel nous sommes, ni la vie en ce monde, puisqu'il aime ce monde et il aime cette vie. Mais simplement, il dit qu'il ne faut pas confondre ce qui est créé et ce qui est créateur. Il ne faut pas confondre la chair et l'esprit. Les paroles de Jésus, elles sont à la fois chair et esprit, bien sûr. Comment serait-il autrement ? Quand il parle, c'est avec des sons, c'est donc des vibrations de l'air, du gaz, en fait. Quand il parle, c'est avec des mots, c'est avec un langage, c'est avec des citations de l'Ancien Testament qu'il faut comprendre, c'est avec des images qu'il faut décrypter. Ça, c'est la chair de sa parole. Et donc, il faut arriver à en recevoir l'esprit qui est à l'intérieur de la chair, recevoir l'esprit qui est créateur, le souffle qui donne la vie, finalement. Quand Jésus utilise des paraboles pour nous faire voir les choses autrement, quand il dit des paroles provocantes pour faire choc, quand il dit des choses complexes pour briser nos idées trop simplistes, quand il dit des choses belles et parfois étonnantes, comme l'amour de Dieu même pour ses ennemis, toutes ces paroles, elles sont à prendre comme de la chair, nous dit-il. Mais la chair, c'est comme un biftec préparé pour que nous le mangions, si vous voulez. C'est pas fait pour rester à l'extérieur. Un biftec tel quel, c'est un peu dégoûtant. Moi, j'arrive pas à le prendre à la main pour le mettre dans la poêle. Il faut que je le prenne un peu avec une fourchette, je ne sais pas. D'ailleurs, quand une chanteuse comme Lady Gaga a mis une robe faite entièrement de beefsteaks cousus ensemble, elle sait très bien que c'est choquant, parce que c'est à contre-emploi. La viande, ça ne sert pas à ça, normalement. Ce n'est pas pour rester à l'extérieur. Cette viande, elle aurait pu aider des dizaines d'enfants, finalement, qui n'ont pas de bonne nourriture, peut-être à être plus en forme, à être mieux nourris. Et donc Jésus nous dit que les paroles qu'il dit, elles ne sont pas faites pour rester à l'extérieur, mais elles sont faites pour être mangées, assimilées et distribuées à ceux qui ont faim, pour qu'ils puissent vivre, être plus vivants. Ces paroles ne sont pas faites pour rester de la chair, car en les prenant, en les mangeant, en les digérant, elles sont esprit et elles sont vie pour nous. Ces paroles ne sont pas faites pour que nous nous en fassions des manteaux, ni pour que nous fassions des prisons pour nous enfermer dedans, pour des ordres, pour obéir, ni des prisons pour enfermer les autres, ceux que nous aimons et que nous voudrions absolument obliger à être bien sages, bien en place, bien enfermés. Ces paroles, ce n'est pas pour se sentir jugé par ces paroles comme de l'extérieur. encore moins pour juger les autres en disant « toi, ça va pas du tout ». Ces paroles, elles sont chères. Elles sont faites pour être prises, pour être mises dans la bouche, pour être mâchées, pour être digérées. Et alors, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes et elles sont esprit et elles sont vie. Les paroles de Jésus donnent la vie, c'est ce que remarque Pierre. Les paroles de Jésus sont une impulsion de vie. Elles donnent envie de changer notre regard sur Dieu, sur la vie, sur les autres, sur nous-mêmes. Elles nous donnent envie de devenir meilleurs et de changer le monde. Alors tout ça, ça serait insupportable si ça venait de l'extérieur, finalement. Comme si ça nous imposait de changer, comme si ça imposait par la violence un monde nouveau. Ce serait insupportable si ça venait comme de l'extérieur, comme une contrainte. Mais quand ça nous vient comme un amour que nous ressentons et qui nous fait fondre, quand c'est vécu comme une confiance, confiance en nous, que nous en sommes capables, eh bien cela devient comme une impulsion de vie et non plus comme un coup de pied aux fesses. Les paroles de Jésus sont esprit, et c'est ce que nous dit Jésus finalement, c'est ce que dit Jean quand il nous dit que Jésus dit ça. Et de dire que les paroles de Jésus sont esprit, c'est même plus que de dire qu'elles sont vie. Car si les paroles de Jésus nous donnent une impulsion de vie, c'est déjà très précieux, mais l'esprit, c'est même plus que ça. C'est plus qu'une impulsion. C'est comme une dynamique interne, finalement. L'esprit, c'est plutôt comme un moteur qui nous serait donné. Alors là aussi, un moteur, quand c'est porté à l'extérieur, qu'on doit le porter sur le dos, c'est très, très lourd. Ça nous écrase. C'est dur. Mais quand un moteur est monté à l'intérieur de la moto, par exemple, eh bien ça donne de l'autonomie, ça donne de ne plus avoir besoin de quelqu'un pour nous pousser, comme quand on était un bébé et puis qu'on ne savait pas encore bien rouler. Il faut que quelqu'un nous pousse et nous tienne un peu. Mais là, l'esprit, si vous voulez, ça nous donne d'avoir à l'intérieur de nous-mêmes une dynamique de vie, d'être nous-mêmes une source de mouvement, une source de vie par nous-mêmes, une source de bénédiction, une source de créativité, puisque l'esprit, c'est le dynamisme créateur de Dieu, comme je vous le rappelais. Et donc les paroles du Christ, elles sont comme ça. Elles sont géniales si on s'en saisit, si nous les prenons dans la bouche, pour en discuter, comme le fait Pierre avec ses amis, pour en témoigner peut-être aussi, car en témoignant, souvent, on est obligé de les réfléchir, de les vivre. Si on les mâche, ces paroles, c'est-à-dire si on les déconstruit, il ne faut pas les avaler tout rond. Un beefsteak aussi, si on avale tout rond, c'est pas génial. Donc il faut mâcher ces paroles, les déconstruire, les digérer comme on digère un beefsteak et puis s'en nourrir. Nourrir notre être en profondeur et que ça devienne une énergie, une force. Quand elles restent des paroles extérieures, elles sont dures, elles sont impossibles. C'est ce qui arrive quand on prend les paroles de Jésus comme des réponses toutes faites. Des réponses, ça bloque en fait. Ça nous dit voilà la solution, ben, j'ai plus le choix, j'ai pas à réfléchir, je peux pas adapter. Ou alors, ces paroles, quand elles sont à l'extérieur, c'est des jolies occasions de se culpabiliser soi-même en disant ben, « je ne suis pas parfait comme notre Père Céleste est parfait ». Ben oui, évidemment. C'est une belle occasion aussi de culpabiliser les autres en leur mettant le nez dans leurs fautes, leurs erreurs, leurs limites. Ben oui aussi, nous on a des limites et des erreurs. Ou alors ce serait dur aussi si c'était une chose à savoir sur Dieu, à absolument croire, il faut absolument être persuadé de ça, sinon on a faux, sinon on va être grillé sur place, on va être éliminé, non. Si les paroles restent extérieures, c'est dur, c'est ennuyeux, c'est lourd. Mais comme paroles intérieures, ces paroles mangées deviennent géniales en fait. Géniales comme des promesses qui nous sont faites. Géniales comme des bonnes questions qui nous sont posées pour que nous portions des réponses, notre réponse, une réponse personnelle qui va être adaptée à notre situation, à nos goûts aujourd'hui. Ces paroles vont être géniales comme des ouvertures, des pistes qui nous sont proposées. Est-ce que tu avais pensé à ça? Ah, je peux. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Souvent, Jésus arrive comme ça avec des questions à se poser, des bonnes questions, géniales comme des ouvertures à découvrir, géniales comme un amour qui nous permet de ne plus avoir si peur de la vie. Plus avoir si peur d'être abandonné, plus avoir si peur d'être nul et plus peur d'essayer d'être mieux, d'être meilleur. Pierre, comme nous tous, est dans une sorte d'entre-deux, finalement. La parole du Christ est encore pour lui, en partie, une parole extérieure qui est dure à entendre, qu'on ne comprend pas bien, qui est fatigante à mâcher, à interpréter, à expérimenter. Mais Pierre a déjà goûté de l'effet de cette parole quand on la prend pour soi, en soi, qu'on l'expérimente, qu'on commence à la vivre. « Seigneur, dit-il, tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons confiance. Et nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu, dit Pierre enfin. » Dans un sens, c'était déjà de la foi, un début de foi, que de se dire « Eh tiens, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cet homme. » C'est déjà de la foi, d'essayer un peu d'écouter ce que Jésus dit, juste pour voir. Mais dès qu'on commence à expérimenter l'Évangile, en découvrant que dans ces paroles, quand elles sont mangées, il y a non seulement une impulsion de vie, mais même une source de vie qui jaillit en nous. Alors là, nous dit Pierre, est vraiment née la foi. Une confiance en Jésus, pas simplement une vague confiance, mais une confiance basée sur l'expérience. Oui, il y a là quelque chose d'absolument génial. Et de l'expérience, donc, naît une confiance, une foi. Pierre ensuite réfléchit, il discute, il analyse, et c'est une bonne idée de passer ensuite par l'analyse. Une telle impulsion de vie, et même une telle source de vie qu'il découvre à l'intérieur de lui-même, ça ne peut pas venir seulement de la chair, en fait. Ça dépasse l'humain. De cette expérience naît la confiance, et ensuite naît une connaissance. Il y a en Dieu, en Jésus, quelque chose qui vient de Dieu. Il est même le Christ. Ce n'est donc pas seulement à moi que Dieu veut ce bien incroyable, ce bien fou, c'est à chacune et à chacun. Et nous partageons cette expérience, cette confiance et cette connaissance. Venez et goûtez comme le Seigneur est bon, nous dit le psaume 34. Amen. Un grand merci donc au cœur de l'oratoire, sous la direction de notre maître de chapelle, Fabien Aubé, pour ce chant donc, qu'ils nous ont proposé. Alors cela dit, au passage, ils recrutent bien sûr des choristes, ceux qui aimeraient chanter, donc dans tous les pupitres, toutes les hauteurs de voix, mais surtout en fait c'est des hommes en fait, qui sont cherchés, des ténors et des basses. Vous pouvez éventuellement aller les voir à la sortie. Merci Fabien. Alors, il prépare un concert pour le mois de juin, pour fin juin, je crois, le 25 juin. Mais pour l'instant, c'est à nous de chanter, en fait. Je vous propose de chanter le cantique 240 dans le petit recueil. « Vers toi s'élève mon âme éternelle, mon Dieu, mon roi. » 240. pouvez prendre place. Alors je crois qu'il y a les routiers qui voulaient faire une annonce, donc s'ils sont effectivement là, ils peuvent s'approcher, peut-être Gérard peut leur donner aussi un micro. Mais en attendant, donc il y a aujourd'hui donc, l'éducation biblique qui va durer jusqu'à 16h, donc c'est une joie de se retrouver ensemble. Il y a le groupe de lycéens, j'espère, qui va se réunir jusqu'à 3h. Lundi soir, lundi à midi, il y a le groupe protestant des artistes avec une conférence donc de Madame Julian sur Carmen. Mardi soir, à 19h30, il y a le groupe d'étudiants et jeunes actifs qui se réunit en face à l'oratoire, aux 4 rues de l'oratoire, donc à 19h30, avec un repas partagé. Et puis un petit peu un débat sur l'animisme. Est-ce qu'on peut être à la fois animiste et chrétien en même temps, sur la nature et la spiritualité, sur ces questions-là? Mercredi après-midi, il y a le groupe de grec biblique pour les confirmer. Mercredi soir, en face à l'oratoire, aux 4 rues de l'oratoire, il y a le groupe biblique commun avec l'église catholique de Saint-Eustache, avec le père Prigent et moi-même, donc sur justice, paix et joie dans l'esprit. Jeudi, il y a la répétition du chœur donc, qui recrute. Samedi après-midi, ici à 18h, il y a une cantate de Bach. C'est une cantate profane, La Chasse, avec une introduction par Gilles Cantagrel, qui est donc le grand spécialiste des cantates de Bach, et puis une petite méditation aussi, c'est un peu notre style. Et puis dimanche ici, culte avec une prédication de François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France. Alors, je vais laisser la parole aux routiers donc, qui ont un projet pour cet été, et puis aussi peut-être des gâteaux pour la sortie.
Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est la route de l'oratoire. Moi, je m'appelle Irène, c'est Olympe et Agrippa. Et donc, en tout, on est 6 jeunes qui montons un projet cet été. On est tous d'anciens éclaireurs qui, comme l'aboutissement de nos années scouts, montons ce projet. Donc, ce projet aura lieu cet été à Madagascar. On part pendant un mois dans un orphelinat. Faire avec des enfants des activités autour du français, notamment parce que c'est une langue qu'ils ont besoin de pratiquer. Donc là, on entre dans les 6 mois avant le projet, les 6 derniers mois. Donc ça s'accélère, voilà. Et donc, si vous voulez nous aider, nous, on a besoin donc, de services à rendre. On fait toutes sortes de choses. C'est des petits déménagements, des organisations de goûter, repeindre des volets, laver des carreaux, vraiment plein de choses. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et surtout, nous, là, on va vendre des gâteaux à la sortie du culte. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous avez des questions aussi sur le projet, pour en parler avec nous, ce sera un plaisir. Et merci de votre attention.
Et donc à la sortie, je crois qu'ils nous proposent des gâteaux pour alimenter notre pique-nique. Alors je voudrais aussi m'excuser pour le site internet. C'est vrai qu'on est un peu victime de notre succès et l'hébergeur de notre site internet a trouvé qu'on consommait trop de ressources pour un site internet moyen en fait. Et donc ils ont décidé de nous faire du chantage, de bloquer le site internet, à moins que, sauf si on donne 100€ par mois ou je ne sais pas quoi, ce qui est vraiment prohibitif. Donc on est en train de déménager le site internet chez un autre hébergeur et entre-temps, là, bon, c'est complètement en panne. Donc, désolé, ça va, je crois, revenir vite en service, mais comme c'est une grosse organisation, c'est vrai que ça prend 2 minutes quand même. Maintenant, c'est le moment donc, de l'offrande et en ce deuxième dimanche du mois, l'offrande est intégralement consacrée au service d'entraide qui a à cœur d'aider donc les plus démunis. Merci pour votre générosité. Nous prions. Ô notre Dieu, sois vraiment béni pour ta parole de vie, parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs et qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos désirs, qu'elle y purifie nos paroles et nos actes. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse et que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie. Et qu'ainsi nous puissions servir vraiment, en vérité, notre prochain, celui que tu nous confies et que seuls, peut-être, nous connaissons et pouvons aider. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, que toute la terre soit vraiment vivifiée par ta présence, par ta bénédiction, par ton Saint-Esprit. Béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et chacune et chacun en particulier, nous pouvons recevoir cette bénédiction selon les paroles qui ont été données par Moïse, paroles à dire au singulier, car elles s'adressent individuellement à chacun d'entre nous. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, que tout être te bénisse, ô Dieu de vie et de paix.